RCF. Le Magéco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
À mes côtés, pour débuter ce magazine, Olivier Amar du Journal des entreprises. Bonjour Olivier.
Bonjour Bastien.
Vous remettez le micro, c'est bien
ça
en face de vous.
Fait.
Vous recevez donc cette semaine Pascal Rouillet, avocat de profession, vice-président du MEDEF Anjou et responsable de cette commission transition environnementale au sein de l'organisation patronale.
Tout à fait. Bonjour Pascal Rouillet.
Bonjour.
Bastien vient de le dire, vous êtes avocat. Vous êtes vice-président du MEDEF Anjou. Une question toute bête, c'est aussi une entreprise, un cabinet d'avocats?
Oui, je le crois. Je le crois. C'est une profession libérale dans l'esprit. Ça veut dire libre, ça veut dire libéré, ça veut dire organisé, ça veut dire qu'on est soumis aussi à l'autorité d'un ordre professionnel. Mais quand on gagne un peu en nombre, en volume d'activité, en nombre de collaborateurs, bah on a les mêmes problématiques que n'importe quelle entreprise. Le cabinet que je co-dirige, on est entre 50 et 60 aujourd'hui sur 3 sites, à Paris, à Nantes, à Angers. On ouvre d'ailleurs un cabinet très prochainement à Cholet, vous voyez. Donc on maille le territoire, on essaie en tous les cas. Et on a bien évidemment à ce titre-là des problématiques qui sont celles de n'importe quel chef d'entreprise, qu'il soit dans l'industrie, dans le bâtiment ou dans le service.
Est-ce que ça montre aussi que la typologie des adhérents du MEDEF, des entreprises ou des dirigeants d'entreprises qui font partie du MEDEF, c'est pas celle que véhicule une certaine imagerie populaire? C'est pas que le CAC 40, le MEDEF?
Non, mais c'est ça. Et c'est essentiel pour nous qui sommes dans les territoires de défendre cette image locale. Pour vous parler du MEDEF Anjou, on a 40 000 salariés représentés par le mouvement, 140 mandats qui sont gérés par l'organisation. 49% de nos adhérents ont moins de 15 salariés. Il y a à peu près la moitié des gens qui adhèrent au MEDEF Anjou qui ont entre 0 et 15 salariés, donc plutôt des petites ou moyennes entreprises. Et puis bah, l'autre moitié, ce sont des entreprises plus importantes, jusqu'à l'ETI, avec des centaines de salariés, des chiffres d'affaires substantiels. Mais on est sur cette représentativité la plus large possible sur un territoire, parce qu'on a des problématiques en commun, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Et on arrive donc à travailler sur des problématiques communes, selon les, même si on n'est pas dans les mêmes secteurs d'activité.
Oui, parce que on a évidemment des choses qui nous distinguent. Effectivement, une entreprise industrielle a des problématiques de gestion de déchets, par exemple, que n'a pas une société de pur service. Ce qu'on a peut-être en commun, c'est un environnement, un écosystème, des administrations avec lesquelles il nous faut travailler, des problématiques de clientèle, des problématiques d'image, des problématiques de management et de ressources humaines. Et ça, c'est absolument commun à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité.
Alors, vous présidez ou vous avez la responsabilité de la commission transition environnementale au sein du MEDEF Anjou. C'est un sujet qui vous interpelle, dans lequel vous vous retrouvez aussi?
Oui, vous savez, au départ, je suis pas sûr d'être le spécialiste de la question, hein, très honnêtement, mais on me demande d'organiser quelque chose sur le plan territorial à destination des adhérents et des tiers, d'ailleurs, des entreprises qui s'intéressent vers le sujet. Et là, ça devient très intéressant. D'ailleurs, mon entreprise est adhérente du mouvement et participe aux ateliers parce qu'on a besoin de se former à la question. Donc, effectivement, on m'a confié la mission d'animer, en lien étroit avec le MEDEF national, mais surtout le MEDEF Pays de Loire, présidé par Samuel Tual. On a quelqu'un qui est salarié de la région et qui décline dans les territoires des formations, des ateliers très pratiques, très très concrets, sur ce qu'on peut faire pour accompagner cette transition, participer à cette transition. Et c'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est ce que je fais.
Alors il y a donc un programme d'accompagnement, un parcours avec 5 ateliers. C'est mis en place en partenariat avec le MEDEF Pays de la Loire, vous l'avez dit. Les deux premiers ateliers ont eu lieu en janvier. C'était une fresque du climat. Et en février, c'était sur la sobriété énergétique. Sont des ateliers pédagogiques et collaboratifs. L'objectif, c'est qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là.
Exactement. On a essayé de définir une jauge qui permettait de discuter. Donc, on a à chaque fois entre 15 et 20 entreprises qui s'invitent pour l'occasion. Ce ne sont pas toujours les mêmes, d'ailleurs, mais il y en a qui sont fidèles depuis le départ et qui viennent parce que le sujet les intéresse. Et ce sont soit des entreprises qui sont très en avance sur ces sujets et qui viennent témoigner de leur expérience, soit qui viennent se comparer aux autres et voir ce que les autres ont fait dans d'autres matières et d'autres métiers que le leur, soit des gens qui débutent un petit peu parce que je crois qu'on a en commun une sensibilité sur le sujet et que la question se pose de savoir comment on peut concrètement s'inscrire demain dans cette transition pour ceux qui n'auraient pas déjà pris le départ.
Et la question qui se pose, c'est aussi par quoi on commence, parce que le sujet paraît tellement vaste pour ceux qui débutent et qui s'engagent là-dedans.
Alors je vous le confirme, pour l'avoir non pas découvert récemment, mais pour m'être documenté plus avant récemment, c'est un puissant fond. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser à la question, on peut y passer ses semaines. Et vous comprenez que le souci du dirigeant, c'est pas forcément exclusivement cette question-là, même si cette question est importante. Donc on a commencé par une fresque du climat qui permet. Plusieurs l'ont fait ici et ailleurs, notamment la Chambre de commerce et d'industrie 49 l'avait organisé en son temps et j'y avais personnellement participé. C'est extrêmement intéressant parce que on voit un petit peu comment les choses sont imbriquées et tout dépend de tout, en fait. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas un bouton sur lequel il faut appuyer. En revanche, ça permet pour chacun de se placer dans une problématique globale et de s'interroger sur sa propre expérience en se disant, mais qu'est-ce que je fais moi concrètement pour essayer d'améliorer la situation? Et les leviers existent, incontestablement.
Est-ce que ça correspond à une demande réelle des entreprises ou est-ce que c'est le MEDEF qui incite, qui encourage à ça? À travailler sur ces questions-là.
Oui, j'ai envie de vous dire que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des remontées de terrain des chefs d'entreprise qui nous disent, moi je suis adhérent MEDEF, pas forcément parce que je veux du service dédié, je voudrais qu'on m'incite à progresser, je voudrais qu'on me sensibilise davantage. J'ai des questions que je me pose, j'ai pas forcément les clés, les interlocuteurs, je veux bien que vous organisiez quelque chose. Et puis nous, on pense que fondamentalement, et il y a des recommandations nationales, la transition, il faut l'épouser aujourd'hui. La transition pour la croissance, elle est possible, et il faut qu'on en soit les acteurs, et pas qu'on la subisse en aucun cas. Donc c'est pourquoi on est à la fois sur de la remontée terrain et une ambition nationale.
Est-ce que c'est un enjeu de survie pour certains de vos adhérents?
J'en suis persuadé, personnellement. C'est-à-dire que quand vous discutez par exemple avec des entreprises du transport, on vous dit que le métier du transport, c'est pas qu'il a évolué, c'est qu'il est en pleine révolution et c'est pas terminé. On va vous parler de bus électriques, de camions avec des nouveaux carburants. Vous imaginez bien que pour les gens dont c'est le métier, c'est pas seulement une nécessité que de faire évoluer l'entreprise, c'est une absolue injonction des marchés, des clients. Je pense que à terme, dans certains métiers, peut-être dans tous les métiers, il faudra afficher, pour être référencé, des qualités environnementales, sociales, etc. Donc ces gens-là n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'évoluer. D'autres ont sans doute plus de temps. Peut-être que dans le service, on a plus de temps devant nous. Et c'est une raison supplémentaire pour y aller dès maintenant et être un peu ambitieux.
Vous dites que c'est une injonction des clients. C'est aussi quelque chose de nécessaire quand on veut recruter. Aujourd'hui, il y a une jeune génération qui est hypersensible à ces sujets-là. Si vous n'êtes pas dans ces sujets-là, est-ce que vous allez attirer des jeunes dans votre entreprise, quoi?
Vous savez, je suis un petit peu inquiet pour les grands groupes industriels aujourd'hui, qui souffrent, je pense à Total notamment, d'une image qui pourrait être très dégradée, alors même que l'entreprise fait des efforts considérables sur des sujets sensibles et dans des proportions qu'on n'imagine pas pour épouser la transition. Je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, nous nous adressons à des jeunes qui veulent donner du sens à leur carrière. Historiquement, on allait dans les grands groupes industriels ici ou là pour faire carrière. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage aux TPE, PME, et on veut donner du sens. Donc, dans les questions au moment du recrutement que vous avez, mais même en termes de gestion de carrière, quand vous avez des collaborateurs qui travaillent avec vous depuis plusieurs années et qui vous disent, mais qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que l'entreprise fait pour moi? Qu'est-ce que l'entreprise fait pour le territoire? Qu'est-ce que l'entreprise fait pour le pays et le globe? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que, si j'ai pas de sens, je vais aller voir ailleurs parce qu'il y a d'autres entreprises qui ont trouvé du sens. Donc, je pense que, pour répondre à cette problématique qui est vraiment partagée par tous les dirigeants d'entreprise, problème du recrutement et de la fidélisation des équipes, il y a cette question fondamentale de la transition écologique.
Est-ce que c'est l'affaire de tous, la transition dans les entreprises? C'est l'affaire du dirigeant d'entreprise, c'est aussi l'affaire des collaborateurs?
Ça dépend des entreprises. Je pense que c'est très commun, effectivement. Vous avez des entreprises dans lesquelles le dirigeant a une forte sensibilité sur le sujet. Et il est un peu moteur parce qu'il est dirigeant. Vous avez d'autres entreprises où le dirigeant est un peu moins moteur, mais ce sont les équipes qui font remonter des volontés. Moi, très simplement, dans mon entreprise, on m'a dit, vous savez combien on consomme de bouteilles d'eau, là, entre les clients, les collaborateurs, et je ne parle que de l'eau, en semaine, sur un mois, sur une année, on est en milliers de bouteilles. Et pourquoi on n'aurait pas des fontaines? Alors, c'est un point de détail, ça va pas régler le problème de la planète, hein. Mais en attendant, on a basculé parce que quelqu'un dans l'équipe a dit je m'émeus du fait qu'on consomme de la bouteille jetable. On a fait notre toute petite révolution très modeste à notre niveau à nous. Ça, décliné par centaines, par milliers de projets dans toutes les entreprises du territoire, on arrive à avancer.
On l'a dit, il y a 5 ateliers. Il y en a un qui aura lieu en avril, qui porte sur la stratégie économique. Est-ce que c'est pas essentiel ce sujet. Comment, en quelque sorte, concilier croissance et transition environnementale? Il y en a qui prétendent que c'est pas possible.
Absolument. Il y a un débat de fond là-dessus. Je pense qu'il faudrait s'entendre sur les notions, peut-être pour mieux se parler. Si la croissance de demain est calibrée sur les mêmes critères que la croissance d'hier, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Si c'est un problème de performance économique pure, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'effectivement, épouser la transition écologique en maintenant les critères classiques de performance, on va perdre les équipes, on va perdre les clients, on va se perdre, tout simplement. Si on redéfinit la croissance en me disant, mais maintenant, dans la croissance, il y a des indicateurs de performance, mais même sur les rapports humains, sur la proximité client, sur les liens avec les fournisseurs, sur les liens sur le territoire avec l'écosystème, sur la transition écologique, si vous redéfinissez la croissance, je suis absolument persuadé qu'on peut concilier croissance et transition écologique.
D'autant que vous parliez de ces indicateurs, demain, les dirigeants, ce seront les jeunes d'aujourd'hui qui sont déjà, on l'a dit, hypersensibles à ces sujets-là.
Mais exactement, c'est-à-dire que pour l'instant, je pense que la génération hypersensibilisée au sujet n'est pas encore arrivée totalement à la direction des entreprises, des institutions. Mais d'abord, ça va venir, il faut le souhaiter, et c'est à nous de nous remettre en cause, tout simplement. Il va falloir qu'on réussisse à travailler ensemble, et il va falloir qu'on protège notre planète ou qu'on arrête de la dégrader. Donc comment est-ce qu'on réussit cette équation? Je pense que c'est en tenant compte, dès maintenant, de cette problématique.
Le dernier atelier sera sur communiquer sur ces sujets-là, sur ce qu'on fait. Est-ce que communiquer sur ces sujets-là, c'est essentiel? Et puis, est-ce que ce sera aussi un moyen d'éviter tout ce qu'on appelle greenwashing?
Alors, nous,
qui ne fonctionnera pas dans tous les cas.
Oui, c'est un moment où on ne trompe personne. Je pense que c'est une vraie problématique, une vraie question. Vous avez un enjeu de communication. Parce que travailler pour la planète, si vous ne le dites pas et vous ne le faites pas savoir, ça ne va pas vous aider à recruter. Si vous travaillez pour la planète et qu'en même temps vous le faites savoir et que ça vous aide à recruter, à travailler et à mieux travailler avec vos clients, vous réussissez quelque chose. Donc la problématique de la communication, elle n'est pas centrale, mais elle est un point qui permet à l'entreprise de capitaliser sur ses efforts, de les faire connaître, de les faire partager, et le cercle est alors vertueux.
Merci beaucoup, en tout cas, Pascal Rouillet, d'avoir été notre invité.
Responsable, donc, on le rappelle, de cette commission transition environnementale au sein du MEDEF Anjou. Le reste de l'information économique en Maine-et-Loire. En bref, avec vous, Olivier, on s'intéresse d'abord à une entreprise de cybersécurité qui va s'implanter prochainement à Angers.
Oui, spécialiste de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. C'est la société Digitemis qui ouvre une antenne à Angers. Elle intègre la villa Angers French Tech. Elle a été créée en Vendée en 2014. Elle s'est développée en ouvrant une antenne à Nantes, puis à Paris. Et désormais, elle ouvre avec 4 experts en ce début d'année 2023. Elle propose à ses clients des simulations d'attaques, des solutions pour se protéger ou encore un accompagnement pour assurer la conformité au RGPD. Et puis, le groupe Choletais, Jean Rouillet Automobile, a vu son chiffre d'affaires passer de 850 millions d'euros en 2021 à 1,1 milliard d'euros en 2022, année durant laquelle il a vendu 45 605 véhicules. Il a été lancé en 82 avec l'acquisition d'une première concession Renault à Cholet. Le groupe emploie désormais 1800 collaborateurs, 62 sites, avec 14 marques de constructeurs. Il a entre autres fait en juillet 2022 l'acquisition de Renault Angers. Et puis, une information qu'on nous a donnée tout à l'heure, le groupe ouvre son centre de formation de carrosserie à Cholet.
Merci Olivier pour toutes ces précisions. Olivier Amard du Journal des entreprises. Tout de suite, on passe au débat de l'écho.
Les débats de l'écho, RCF Anjou.